La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N., Hélène Maquet.
Roger Champenois est devenu une sorte de figure légendaire de la tradition écrite ou orale en pays de Gaume.
Il y en a qui le disaient, hein. Il avait tué sa femme.
Eh bien voilà, il y a plus de 48 heures que Roger Champenois court ici dans les bois.
Parfois, dans cette émission, l'histoire résonne étrangement avec le présent. On a l'impression de revivre les mêmes séquences encore et encore.
Parfois, c'est le contraire. Tout à coup, en regardant le passé, on mesure à quel point le monde a changé, à quel point la même histoire renferme plusieurs perspectives.
C'est exactement ce qu'il se passe quand on raconte l'affaire Champenois, un fait divers qui a secoué la Gaume au milieu des années 60.
Roger Champenois est-il ce fugitif presque sympathique entré dans le folklore local qui a su tenir cette centaine de gendarmes en échec en se cachant dans les bois, ou est-il coupable d'un féminicide dont la victime a toujours un peu été tenue responsable par la société ?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue.
On part donc au fin fond de la Gaume aujourd'hui pour vous raconter cette histoire qui reste vivace, voire légendaire dans les mémoires locales, mais qui a un peu été oubliée en Belgique au fil du temps, c'est l'affaire Champenois. Du nom d'un homme, Roger Champenois, resté dans les mémoires parce que pendant 10 jours, il s'est caché dans les forêts gaumaises, tenant en échec un dispositif policier et militaire impressionnant.
Et c'est une autre époque, on sent bien que la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, n'est pas loin. Ces forêts-là ont servi de maquis, elles renferment des histoires héroïques. Et la région va être mise sans dessus dessous par les militaires et les gendarmes pour mettre la main sur Roger Champenois. Champenois, c'est un bûcheron, il s'est marié, mais avec une femme âgée plus riche, qu'on appelle la châtelaine dans la région.
Alors on a énormément d'archives sur cette histoire à la RTBF, des archives de l'époque en 1964, on sent d'ailleurs qu'on est vraiment loin d'ici dans le temps. Et puis en 1993, 30 ans après l'affaire, l'émission Faits divers avait pu interviewer Roger Champenois qui avait donné toute sa version de l'histoire. On entend aussi énormément de témoins dans ce reportage. Ce sont donc ces deux archives qui datent d'époques différentes qui ont été utilisées pour construire le récit de cette émission.
Et pour mesurer le temps qui nous sépare aujourd'hui de l'affaire Champenois et puis ce qui a changé dans la manière dont on traite ces faits divers, ou ce qu'on appelle des faits divers, deux invités. Fabrice Gérard, bonjour. Fabrice.
Bonjour.
Journaliste ici à la rédaction judiciaire. Vous êtes sur le feu pour l'instant avec le procès des attentats de Bruxelles. Vous traitez régulièrement des faits divers. D'après vous, pourquoi, à travers le temps, les médias racontent beaucoup de faits divers ? Pourquoi ça prend beaucoup de place ?
Eh bien, parce que les faits divers sont toujours des événements qui sortent de l'ordinaire. Ce sont des événements exceptionnels, mais qui s'inscrivent néanmoins dans un cadre, dans un lieu, dans un terreau, et donc qui, tout en étant exceptionnels, sont en même temps intimes, racontent une part d'intimité. Et donc c'est un peu cette tension-là qui semble intéressante entre des choses qui sortent de l'ordinaire, mais des choses auxquelles néanmoins on peut s'identifier dans ce que vous allez traiter, ce dont vous allez parler. Il y a une opposition entre quelqu'un qui est illettré, analphabète, et qui est marié avec quelqu'un qui, par contre, a beaucoup de culture, qui est beaucoup plus âgé. Et donc, cette espèce d'incarnation-là, on peut s'identifier très facilement à elle. Et c'est ça, sans doute, qui fait le sel des faits divers et qui fait que les faits divers intéressent tant de gens.
Avec nous également Camille Bernard, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au Grenade et à Axel Magazine, vous travaillez sur les questions de genre. Et dans cette perspective-là, est-ce que pour vous, dans les médias, on raconte ces histoires-là, ces faits divers, correctement, je dirais ?
Eh bien, ça reste encore compliqué. On n'est plus comme dans les années 60, enfin, en tout cas, j'espère. Mais il y a plusieurs choses qu'on constate, notamment une euphémisation des actes violents. Et on va chercher dans le parcours de la victime ce qui peut expliquer pourquoi elle est victime, plutôt que d'aller essayer de comprendre pourquoi les hommes peuvent être violents, ce qui peut être intéressant journalistiquement parlant. Et donc, il y a aussi la question de ne pas cantonner les violences faites aux femmes aux faits divers, de pouvoir les traiter comme des faits de société, aussi dans d'autres rubriques. C'est très important d'enquêter aussi de cette manière là sur ces violences.
Allez, avant de parler de tout ça, on se plonge donc dans nos archives, direction la Gaume, les années 60, c'est le plein été.
Septembre 1964, 7h du matin. Dans les bois de Rastatt, il fait encore frais. Il est tôt et la chaleur accablante ces derniers jours va bientôt s'abattre sur la Gaume. Le gendarme Natalis marche dans la forêt. Il est accompagné d'un collègue français et d'un chien policier. Ça fait 10 jours qu'ils sont mobilisés à traquer sans relâche ce Roger Champenois qui se cache dans les forêts gaumaises. Ils sont des centaines de policiers, de gendarmes, de militaires à quadriller la région, en jeep, en hélicoptère, sans succès. Mais là, un habitant de Villers-sur-Semois pense l'avoir vu passer. Alors le gendarme Nathalys, lunettes, moustache et képi haut, est sur ses gardes. Tout à coup, au pied d'un chêne, le chien s'arrête, regarde en l'air et se met à aboyer. Le gendarme grimpe le long du tronc et tombe nez à nez avec le fugitif.
Alors je l'ai pris un peu par la douceur en lui disant « Allez Roger, viens, descends, il n'y a rien à faire ». C'est à ce moment-là qu'il m'a dit, n'est-ce pas, « Oui, mais si je descends, on va me taper dessus ».
Il avait peur du public.
Je suppose. Alors, comme nous étions très haut sur l'Arpe et qu'on avait un beau point de mire de toute la région, de la plaine et de la route, j'ai dit à Champenois, regarde, nous sommes bien placés pour le voir. Le civil est là sur la route. Il est gardé par la gendarmerie, donc c'était exact. On empêchait le civil d'entrer dans la plaine. J'ai dit, tu vois bien qu'on ne te fera pas de mal. Maintenant, je dis, regarde au pied de l'Arpe, tu n'y verras qu'un gendarme. Donc, je dis, tu ne peux mal. Allez, je dis, parole d'homme, parole d'honneur, donne-moi la main, on ne te fera rien, on va descendre.
Voilà comment se termine cette cavale de 10 jours dans les bois de Gaume. Pour comprendre comment Roger Champenois, bûcheron de 36 ans, en est arrivé là, il faut remonter quelques années en arrière et d'abord raconter l'histoire d'Elisabeth Dagneau.
À 2 pas du village, la propriété de Montauban s'étend sur 600 hectares de forêt. C'est la résidence d'un riche médecin bruxellois. En 1936, il rencontre à Bruxelles une jeune femme d'origine modeste mais ambitieuse, Elisabeth Dagneau. Il la fait venir à Montauban. Elisabeth y mène désormais la vie de châtelaine. Au sortir de la guerre, leur liaison prend fin. Elisabeth quitte le domaine, non sans avoir reçu quelques biens, une villa, des titres, de l'argent. Elle approche alors de la cinquantaine. Elle vit seule dans un moulin.
Aujourd'hui, on ne trouve plus qu'une seule photo d'Elisabeth Dagneau, une photo d'identité en noir et blanc, sur laquelle l'ondulation de ses cheveux clairs est soigneusement ramenée en arrière. En 1954, Elisabeth rencontre Roger Champenois. Il est 25 ans plus jeune qu'elle, rapidement ils se marient. Et dans le village de Houdemont, où elle achète une ancienne ferme, le couple étonne.
Elle était avant tout une femme élégante en plus, qui aimait le luxe, qui se plaisait être bien habillé, et ainsi de suite. De vivre un petit peu, si vous voulez, la vie d'une femme qui peut commander et se faire servir. Ça donnait cette impression-là.
Une femme qui aime se faire servir, qui aime le luxe. Voici comment Roger Champenois la décrit.
Ah, c'est elle qui, on va le dire, qui portait les pantalons. Moi, j'avais juste à aller tout doucement. Moi, ça ne me dérangeait pas, vu que je n'avais pas tellement d'instructions. Bon, si on l'embêtait, elle savait aller sonner à la porte, je devais aller sonner. C'était... Alors, il y en a qui ont dit, « Oh, tu l'as mariée pour son argent. » J'ai dit, « Attention, son argent, elle dort tout près, tu ne sais pas en avoir beaucoup. »
Une femme proche de son argent, qui a des aventures avec d'autres hommes, c'est aussi ce que raconte son mari. Une dizaine d'années plus tard, nous sommes en 1963, tout à coup, on se rend compte qu'Elisabeth a disparu. Roger Champenois va voir la police. Il raconte qu'il est allé déposer sa femme à la gare d'Arlon, une dizaine de jours plus tôt. Elle allait rendre visite à une tante à Wavre, raconte-t-il. Mais rapidement, les policiers se rendent compte qu'il n'y a pas de tante à Wavre. Alors que s'est-il passé? Où est Elisabeth Dagneau? Dans le village de Houdemont, la rumeur enfle. Et si Roger Champenois l'avait tuée?
Au bout d'un temps, ça devenait long, puis on s'est dit tout compte fait, il était bien capable de la faire disparaître d'une manière ou de l'autre aussi. Et du fait qu'on ne retrouvait pas son cadavre, là, on hésitait quand même.
Moi, pour ma part personnelle...
Il y en a qui le disaient, hein?
Il y en a qui le disaient, mais pour ma part personnelle...
Il y en a qui avaient même fait des paris.
Je ne pensais pas, moi.
Il avait tué sa femme.
On pariait.
Ah oui, il y avait
de
des gens qui savaient en parlant. Non, ça n'allait pas jusque-là.
Non, mais on disait, il y avait des gens qui étaient convaincus que c'était vrai, et d'autres qui étaient convaincus que ce n'était pas vrai.
Roger Champenois entend les rumeurs. Et ce qu'il entend par-dessus tout, c'est la voix de l'épicière du village.
C'est le premier coup de langue que j'ai reçu, méchant, c'est venu d'elle.
Parce qu'elle disait du mal de vous.
Bon, pas du mal de moi et aussi de ma femme.
Alors le 24 août 1964, l'homme va poser un geste terrible qu'il racontera plus tard avec détachement.
Bon, moi, je une fois rentré ici, j'ai mis dans du plat, j'ai pris une échelle et puis j'ai descendu, paf, un coup de hache sur la clé.
Roger Champenois se rend chez l'épicière, la frappe avec une hache. La fille de l'épicière se trouve dans la maison.
Elle m'a demandé où se trouvait l'argent. J'ai dit que je ne savais vraiment pas où. Alors, il a dit, ben, je vais aller te mettre à la cave. Puis j'y étais pendant un quart d'heure. Alors, après, il est venu me chercher à la cave. Puis, il m'a mené au magasin. Non, chez lui, ma foi, en passant par le magasin.
Champenois emmène dans sa Jeep la jeune fille âgée de 13 ans. La police est prévenue et se lance à sa poursuite. Quelques heures plus tard, le véhicule est retrouvé accidenté dans les bois. Une patrouille de police se rend sur place.
Ben, nous sommes arrivés avec une section d'hommes. Et alors, nous avons vu de loin un sapin qui était abattu, donc, sur une Jeep enfin. Et alors, à ce moment-là, nous avons vu une roue jaune. Nous avons aperçu des pieds. C'était la gamine. Et elle a vu que c'était le gendarme, elle a couru dans mes bras, enfin je l'ai pris dans mes bras, je me suis sauvé avec. Hein.
Et Champenois, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là?
Nous n'avons pas vu nous pendant ce temps-là.
Il a pris la fuite peu avant votre arrivée.
Peu après l'arrivée, c'est-à-dire au moment de l'arrivée, donc on a pris la gamine était partie, et les gendarmes ont continué, donc hein, le retissage, et lui est parti.
La jeune fille est saine et sauve, l'épicière est blessée, Roger Champenois est parti dans les bois, la traque commence. Des renforts sont appelés sur place. La gendarmerie, la police, l'armée, écrasés par la chaleur, ils cherchent. Après 48 heures, toujours rien.
Eh bien voilà, il y a plus de 48 heures que Roger Champenois court ici dans les bois aux environs de Buznol, d'Étal. C'est finalement à l'estomac qu'on pourra le prendre, c'est du moins ce que tout le monde espère. En effet, on a récupéré déjà un certain nombre de vivres, des sacs, contenant des conserves et des produits que Champenois avait accumulés ici dans les bois depuis plusieurs semaines, sinon depuis plusieurs mois. Et c'est finalement lorsqu'il sera à court de vivres, lorsqu'il aura faim, que Champenois, espère-t-on, se manifestera. En attendant, la battue a recommencé ce matin, alors qu'ici, à Buznol, Buznol où nous nous trouvons et où nous avons passé la nuit, alors qu'à Buznol, les gendarmes ont mené bonne garde cette nuit pour empêcher Champenois de venir se ravitailler dans l'épicerie du coin. Et ce matin, les gendarmes, une quarantaine environ, sont repartis pour essayer de découvrir Champenois. Mais il y a ici des bois qui font à peu près 2000 hectares, il y a 40 gendarmes. Vous pensez bien que tout ce qu'ils pourront trouver jusqu'ici, c'est, mon Dieu, une bûche.
Les renforts arrivent de l'étranger. Le petit village d'Étal est devenu le centre de commandement. Des journalistes viennent de partout. L'homme reste introuvable. En réalité, Roger Champenois n'est pas bien loin. Il passe d'une forêt à l'autre, dort dans une meule de foin ou sous un arbre, vole un jambon à une noce quand tout le monde est parti dormir, chaparde des pommes dans les vergers, dans les villages de Gaume. S'installe un peu l'idée qu'il est bien malin, ce Roger Champenois. Ce bûcheron à moitié illettré qui pourtant tient des centaines de soldats et de gendarmes en échec. Le matin du 1er septembre, un habitant de Villers-sur-Semois le voit traverser la route à découvert. C'est le branle-bas de combat. Le gendarme Nathalie se rend sur place avec son collègue français et le chien policier. Lorsque le chien aboie, Roger Champenois sait que c'est terminé.
Et quand le chien a stoppé,
oui,
puis il a regardé en l'air, et puis ils ont regardé en l'air tous les deux. Alors ils sont tournés par ici, alors par ici ils m'ont vu. Parce que j'étais sur ce côté-ci pour voir la route.
Le fugitif est arrêté. Il est jugé un an plus tard, en 1965. Il reconnaît l'agression de l'épicière, oui, mais pas le meurtre de sa femme, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Après 3h20 de délibération, le jury déclare Robert Champenois coupable du meurtre d'Elisabeth Daniou. Ce n'est que bien plus tard, en 1977, qu'un policier, l'adjudant Gilbert Mahut, va parvenir à obtenir des aveux sur la mort d'Elisabeth Daniou.
Ah ben parce que, comment je vais dire, donc personne ne savait depuis 13 ans où Madame Champenois était. Soit morte, soit vivante, personne ne le savait. Alors, j'ai parlé avec Champenois, lui expliquer qu'il n'aurait peut-être pas tué, comme il disait, hein, que c'était peut-être un accident qui s'est produit, qu'il aurait paniqué, et que, bon, mais il n'a rien répondu, il n'a pas reconnu, oui c'est ça, il n'a rien dit. Alors je lui ai proposé d'aller chez M. le procureur du roi Bastien à 2 heures. Et tout ce qu'il m'a répondu, d'accord. On est retourné, parti dîner, et à 2 heures, nous sommes allés avec lui chez M. le procureur du roi Bastien.
Et là, qu'a-t-il dit ?
Il a raconté ce que je lui avais dit, à peu près.
Roger Champenois explique d'abord que c'est un accident.
Elle est descendue en bas des escaliers, elle est tombée morte, là.
Il a paniqué, dit-il, et il l'a enterrée sous une dalle de béton dans la ferme de Houdemont. L'histoire raconte que lorsque les policiers ont déterré le corps d'Elisabeth Dagneau, il y avait une cordelette serrée autour de son cou.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand Haine.
Donc Robert Champenois tue sa femme, agresse l'épicière du village avec une hache, enlève une fille de 13 ans, puis se cache dans les bois pendant 10 jours avant d'être repris. Ça, c'est le très résumé donc, de cette histoire. Fabrice Gérard, vous qui traitez régulièrement de ce genre de sujet, qu'est-ce qui vous a frappé là, dans ce récit en réécoutant les archives ?
La traque, déjà. Ça, c'est aussi quelque chose. On l'a connu, par exemple, dans les attentats de Bruxelles qui nous occupent, avec Salah Abdeslam qui s'est caché dans Bruxelles pendant 4 mois et demi. C'est un individu isolé, tout seul, qui utilise ses propres ressources pour essayer d'échapper à un service de police, à l'armée, à des centaines d'hommes qui le recherchent.
Ou Jürgen Konings.
Donc ça, c'est un ressort qui fonctionne bien, quoi, le principe de la traque. Alors évidemment, moi, de nouveau, ce qui est interpellant, c'est deux mondes qui se rencontrent dans un premier temps. Donc c'est le monde de l'illettrisme, de la campagne, avec quelqu'un qui vient davantage des villes et qui est davantage éduqué. Et cette opposition-là est aussi quelque chose qui est un ressort qui fonctionne bien dans la manière dont on peut raconter des faits divers. Donc ces deux éléments-là sont vraiment, moi, les deux éléments qui me marquent en premier lieu.
Je trouve que quand on regarde les archives, parce qu'alors ici on a une sélection évidemment, mais c'est ce que j'expliquais, on a beaucoup d'archives sur cette affaire-là, parce qu'effectivement elle a fasciné. Moi ce qui me semble marquant, c'est que les journalistes à l'époque, en 1964, ils ont accès à tout le monde. Donc on entend les policiers, on entend la petite fille qui a été enlevée, c'est une mineure d'âge. Il y a tout ça, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous marque ?
Oui, ça me marque complètement. Ce qu'il y a, c'est que moi, le journalisme que je pratique aujourd'hui, on n'a presque plus cette possibilité-là. Alors, des fois, elle apporte des éléments d'information, des fois, ce sont des éléments d'information qui n'en sont pas véritablement, mais aujourd'hui, avoir des policiers qui enquêtent et qui parle aux journalistes en même temps, avoir des protagonistes du dossier à qui vous adressent des choses, qui vous donnent des éléments d'information. Ça me fait penser aussi un petit peu à l'affaire Grégory. Dans l'affaire Grégory également, il y avait un journaliste de Paris Match qui suivait l'enquête. Et les parents du petit Grégory régulièrement parlaient d'abord aux journalistes avant même d'avoir parlé au juge d'instruction. Donc là, maintenant, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait différent.
On n'entend plus que les avocats. Enfin, on n'entend plus.
Mais justement.
Qui est-ce qu'on entend aujourd'hui ?
Mais je pense que, par exemple, et c'est un droit démocratique important, c'est que maintenant, on appelle ça la procédure Saldus, mais c'est la possibilité pour quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis quelque chose, d'être assisté. C'est une obligation légale directement d'un avocat qui lui annonce ses droits, qui le met en garde contre les déclarations qu'il pourrait faire. Ça a fortement changé les choses. Et aujourd'hui, maintenant, évidemment, l'accès aux victimes est davantage cadenassé, aussi pour des questions de protection pour elles et pour préserver le secret de l'instruction et la bonne tenue de l'enquête. Mais ça, c'est quasiment fini. Ou alors, vraiment, vous avez ce qu'on appelle les journalistes régionaux, les localiers, qui sont des gens qui travaillent dans ces petits villages, qui connaissent déjà les protagonistes. Et là, c'est encore une possibilité d'accéder directement aux principaux concernés, mais aujourd'hui c'est quasiment fini. Effectivement, c'est davantage le discours officiel des avocats et du parquet qui prime sur le reste.
C'est ça. Aujourd'hui, quand on est un journaliste judiciaire, une affaire comme celle-là survient, concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Où est-ce que vous allez chercher l'information ?
Il y a évidemment donc les sources officielles, le parquet, éventuellement, généralement c'est le procureur du roi qui va communiquer et qui va garder la main sur la communication. Alors on a évidemment des réflexes qui sont toujours les mêmes réflexes journalistiques. On va sur le terrain, on fait des enquêtes de voisinage, on essaye d'entrer en contact avec des protagonistes du dossier. Mais ça c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Et donc effectivement, bien souvent, on essaye d'avoir accès à des pièces et des éléments du dossier. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des sources orales, aujourd'hui, on est davantage sur la recherche de sources écrites.
Et comment est-ce qu'on trouve ces sources écrites ?
Ben, on a nos amis les avocats, notamment, qui, pour des intérêts divers, parce qu'eux aussi utilisent les médias parfois pour faire percoler des éléments de l'enquête dans la presse, ce genre de choses. On a les avocats, les relations qu'on peut tisser avec eux, qui doivent parfois et qui nous permettent parfois d'accéder à des pièces du dossier, qui sont là, évidemment, le gros avantage pour nous, journalistes, c'est que ce sont des éléments officiels.
Des sources sûres.
Et ce sont des sources qui sont sûres, davantage sûres, qu'une source, quelqu'un qui connaît par exemple un des protagonistes du dossier. Mais alors on perd évidemment un petit peu le sel de ce qu'on a pu entendre. Voilà, ces gens qui donnent en même temps leur avis, ces accents, ces états d'âme, ces partis pris. Voilà, on perd un petit peu de ce qui fait l'épaisseur d'un fait divers. On est davantage dans un traitement qui est un traitement plus analytique.
Il y a une vraie importance à tisser, alors, quand on est un journaliste qui fait du judiciaire aujourd'hui, des relations de confiance avec des gens du monde judiciaire, que ce soit des avocats, que ce soit peut-être aussi des policiers. Et là, ça se fait de manière un peu plus moins officielle.
Alors aussi, ce qui est très étonnant, c'est effectivement des policiers qui, comme ça, peuvent s'adresser aux médias, parler dans la presse aujourd'hui. Si vous discutez avec un policier, c'est dans leur contrat de travail, dans leur règlement de travail, ils ont une absolue interdiction, sans la permission de leur supérieur hiérarchique, de s'adresser à un journaliste. Néanmoins, évidemment, on le fait. Et dans le cadre de colloques singuliers, on arrive à avoir des informations
en off,
comme on dit. Voilà, sur ce drame de ce policier, là, il y a 3 semaines, 1 mois, qui est décédé à Scarbec après avoir reçu un coup de couteau d'un individu radicalisé. C'est sûr que moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de parler avec des collègues directs de cette personne-là, savoir qui il était, combien d'années d'ancienneté il avait. Il s'avérait que c'était un tout jeune, qu'il était là avec un type de 23 ans, c'était sa deuxième sortie. Donc, on arrive encore, mais voilà, c'est en off complètement et on n'a plus la possibilité d'avoir ces gens sur antenne.
Et il y a peut-être une chose encore qu'il faut ajouter et qui a un impact sur le travail des journalistes depuis quelques années, c'est la protection des sources. Le fait qu'aujourd'hui, une source qui vous donnerait des informations, elle a quand même la possibilité d'être protégée.
Oui, elle a la possibilité d'être protégée. Et donc ça, évidemment, on y fait bien attention à préserver nos sources, à éviter qu'elles soient mises en difficulté si jamais elles nous donnent des éléments d'information. Ça, c'est évident qu'aujourd'hui, ça, je ne sais pas si ça a fondamentalement changé. Juste comme on dit, c'est des gens qui ne peuvent plus parler sur antenne, c'est des gens qui ne peuvent plus nous donner des éléments officiellement. Et donc, nous, évidemment, on utilise le secret des sources et on fait bien attention, évidemment, à le préserver.
Alors, dans l'affaire Champenois, il y a quelque chose d'étonnant. C'est que Roger Champenois, il est devenu un élément du folklore local. En 1993, un reportage de l'émission Faits divers se penchait sur cette affaire. Voilà comment le journaliste Léon Michaud introduisait cette émission.
Si je ne craignais d'avoir l'air de faire de la réclame, je vous dirais que le fait divers de ce soir est exceptionnel. D'abord parce qu'il va nous transporter 30 ans en arrière à une époque, vous le verrez, où les gendarmes portaient encore le képi haut et où les reportages du journal télévisé étaient tournés en film et non en vidéo, ce qui garantissait à l'image une qualité parfaite. Vous aurez l'occasion de vous en rendre compte. Ensuite, parce que le personnage central de l'affaire Champenois, Roger Champenois, lui-même, est devenu une sorte de figure légendaire de la tradition écrite ou orale en pays de Gaume. On a écrit sur son histoire des récits, des scénarios. Jean-Claude Watrin a chanté cette histoire et Jean-Claude Servet prépare sur le sujet une bande dessinée.
Et la fameuse chanson de Jean-Claude Watrin, elle est comme ceci.
Seul tango de Champenois qu'on ira danser dans les bois du banlieue de Gévimont, de Guéville, de Bicombon.
Alors on entend bien que cette histoire de cavale dans les bois a marqué la région et en même temps, toute cette histoire, elle est fondée sur un meurtre, celui d'Elisabeth Dagneau, sur l'agression de l'épicière, sur l'enlèvement de sa fille, qui est une enfant, qui est une mineure. Ça paraît quand même un peu fou, Camille Wernars, de se dire aujourd'hui que ce personnage, quelque part, est un peu, devient un héros alors que c'est un meurtre, un enlèvement d'un enfant.
Oui, c'est complètement aberrant quand on regarde concrètement les faits. Quand on s'intéresse à ça, c'est très étrange tout ce qui est construit autour. Mais quelque part, je pense qu'il y a des restes encore aujourd'hui. Ça a beaucoup changé, effectivement. Mais on retrouve des restes, comme je disais, dans la minimisation, dans le fait de chercher des excuses dans les auteurs de violence. Ça participe aussi à ça. C'est un gentil garçon. C'est un amoureux éconduit. Ça veut dire qu'on lui a dit non, le pauvre. Donc on va encore chercher chez les hommes violents toutes ces... toutes ces excuses, en fait, et ne pas vraiment s'intéresser concrètement aux faits tels qu'ils sont. Si on les regardait journalistiquement parlant, c'est vraiment grave.
Alors, on va un petit peu décortiquer justement tout ça. D'abord, est-ce qu'on peut qualifier le meurtre d'Elisabeth Dagneau de féminicide?
C'est un peu difficile parce qu'il manque certains éléments, mais il y a des choses qui y ressemblent, notamment le fait de maquiller en accident ou de dire que c'est un accident ou un suicide. Ça arrive assez fréquemment. Et puis, quand les médecins légistes enquête et regarde de plus près, eh bien, ils se rendent compte qu'en fait, il y a eu un tiers qui est intervenu. Et c'est là alors que le conjoint ou l'ex-conjoint peuvent être soupçonnés. Donc là, ça ressemble quand même. Deuxièmement, le fait que c'est sa compagne. Là, ça, majoritairement, quand il y a ce genre de fait, si c'est la compagne, ça commence vraiment à ressembler à un féminicide. Donc je dirais que c'est déjà deux éléments. Il y a aussi il fait d'autres violences sur l'épicière et sa fille. Encore un signe, parce que les féminicides, on ne peut pas en parler sans parler des violences faites aux femmes en général. Ça s'inscrit dans ce contexte-là, puisque c'est le meurtre ou l'assassinat d'une femme parce qu'elle est une femme. Donc il y a des violences spécifiques qui s'abattent sur les femmes et les féminicides font partie de ça. Donc là, il y a quand même quelques éléments qui nous permettent de nous dire qu'on peut pencher vers un féminicide néanmoins.
Concrètement, c'est quoi un féminicide?
Donc c'est le meurtre ou l'assassinat quand c'est prémédité d'une femme parce qu'elle est une femme. Quand on dit ça, on n'a pas dit grand-chose, on a dit juste une phrase. Et en fait, on a déjà dit beaucoup de choses, puisque c'est reconnaître que les femmes sont victimes de violences du simple fait qu'elles sont des femmes. Et donc ça explique aussi les résistances qu'il y a autour de ce terme, parce qu'on n'a pas vraiment envie de voir toutes ces violences-là. C'est important aussi, comme je l'ai dit, d'inscrire le féminicide dans ces violences-là. Ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible qui tombe du ciel. En fait, les femmes, elles sont victimes de violences assez fréquemment dans la société. Il y a assez d'études qui le montrent. Et le féminicide, c'est la forme la plus grave de ces violences-là. Il s'inscrit dans ce système de violence. Et l'Association des journalistes professionnels nous demande de raconter aussi ce système. Donc ça, c'est important.
Est-ce que ça veut dire que chaque fois qu'une femme est tuée par un homme, c'est un féminicide?
Non, pas systématiquement. Il faut analyser. C'est pour ça que je disais qu'ici, il manque quand même quelques éléments. Il y a des indices. Mais oui, il faut faire attention aussi à ça. On ne va pas toujours dire que c'est un féminicide.
Oui, à l'époque, on parlait plutôt de crime passionnel. On voit que le vocabulaire a changé parce qu'il y a une prise de conscience quant à la réalité des violences faites aux femmes, etc. Bon, on ne peut pas juger nécessairement le passé, voilà, c'est comme ça qu'on parlait des choses à l'époque. Mais est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est difficile de convaincre, notamment dans la profession journalistique, des gens qui sont nos confrères, nos consoeurs, même parfois, de l'utilité d'utiliser le bon terme et de savoir discriminer ce qui est de l'ordre d'un féminicide ou parfois du meurtre d'une femme, mais qui n'est pas nécessairement un féminicide? C'est encore difficile ou
oui.
Maintenant, c'est quand même, on est passé à autre chose quoi.
Non, c'est difficile. Je donne des formations dans les rédactions et on va me dire que féminicide n'est pas dans le code pénal. Mais drame familial et crime passionnel non plus, étant ma réponse.
Ah, voilà.
Pourtant, on l'utilise encore. On a eu un féminicide il y a quelques jours, ce week-end, et c'était drame familial partout dans la presse qui était utilisé. Donc, c'est deux expressions qui euphémisent et donc qui sont une construction médiatique. Drame familial, c'est un drame, c'est une tragédie, et puis c'est lié à la famille, donc c'est privé quand même, on ne va pas trop regarder. Et puis, crime passionnel, c'est emporté par la passion, il tue. Donc, à nouveau, on est dans cette recherche d'excuses. Donc, ce n'est pas les bonnes expressions.
C'est peut-être important de rappeler alors, c'est sur quoi on se base, même en travaux scientifiques, etc., pour dire que c'est utile d'utiliser féminicide plutôt qu'homicide. Enfin, je veux dire que de considérer qu'il faut une catégorie particulière.
Eh bien, justement, c'est pour reconnaître qu'il y a toutes ces violences et que le féminicide s'inscrit dans cette violence-là. C'est une des violences que les femmes subissent.
Quelque chose de structurel, quoi.
C'est ça. Ça fait vraiment un système. C'est lié à ce système de domination. Quand on parle des féminicides intimes, généralement, il y a d'autres violences aussi avant que le féminicide arrive. Des violences économiques, psychologiques, physiques, sexuelles, plein de violences qu'on peut aussi raconter. Ce n'est pas du tout une dispute de couple, une fois qui dérape. Et ça, c'est encore très fréquent.
Ou la passion qui amène à quelque chose de...
Une fois.
D'irréaliste, enfin. Voilà.
C'est jamais ça. Souvent, il y a des signes, il y a des violences. Et les expertes, les associations féministes travaillent depuis très longtemps sur ces questions et peuvent répondre, peuvent expliquer. Et notamment, les femmes qui travaillent auprès d'autres femmes victimes, elles peuvent expliquer très clairement qu'il y a toujours des violences avant, que ce n'est pas un coup de sang une fois.
Alors, c'est intéressant parce que dans l'affaire Champenois, on l'entend pas dans le récit, mais on l'entend dans les archives, il y a beaucoup de témoignages des voisins, des gens du village qui disent qu'ils se disputaient toujours. On entend comment la personnalité d'Elisabeth Dagneau est présentée, qui est à la fois une parvenue et en même temps une propriétaire. Elle est riche, elle va voir d'autres hommes. Est-ce que là, dans la manière dont l'histoire est racontée, il n'y a pas quelque chose de la manière dont globalement on parle des femmes dans le cadre des violences faites aux femmes et dans le cadre des féminicides?
Oui, et puis elle n'est plus là pour se défendre. Donc c'est ça aussi qui est vraiment très marquant, c'est que lui, on l'entend parler, et puis elle, on ne pourra pas, puisqu'elle est morte. Mais effectivement, c'est des choses qu'on retrouve très fréquemment, encore aujourd'hui, dans le traitement médiatique. Justement, dans la formation, j'utilise un exemple, Muriel, 55 ans, tuée à coups de couteau, et tout l'article nous explique qu'elle est alcoolique, marginale, chômeuse. Donc là, c'est le contraire, elle n'a pas d'argent. Mais c'est une raison, visiblement, pour expliquer, en fait, on dirait qu'elle s'est elle-même donné des coups de couteau, parce que l'agresseur, on n'en parle quasi pas dans cette affaire. Et donc on va chercher dans la vie des femmes ce qui pourrait expliquer ce qui leur est arrivé. Donc, quelque part, c'est qu'on rend les victimes coupables et on rend les coupables victimes. Ils peuvent se victimiser, ils peuvent s'expliquer, ils peuvent se défendre, il n'y a aucun problème. Mais il nous manque la version, il nous manque des gens pour défendre les femmes.
On pourrait dire qu'Elisabeth Daniaud, c'était en fait une femme courageuse qui avait réussi à trouver sa place dans la société et qui finalement était indépendante et autonome. On pourrait le dire comme ça aujourd'hui, on ne se tromperait peut-être pas plus, mais au fond, on ne sait pas.
Oui, oui, c'est ça.
Fabrice Gérard, vous n'étiez pas là en 64, hein, pour couvrir ça. Mais enfin, ça fait quand même quelques années que vous suivez les affaires judiciaires. Vous avez vu aussi évoluer l'utilisation des mots qu'on utilise dans ces cas-là, en particulier quand c'est des féminicides avérés. C'est quoi la politique de la RTBF maintenant? Parce que vous avez vu changer les choses. On en a réfléchi, on a parlé de ça en rédaction avec les consoeurs et les confrères pour faire évoluer les mots qu'on utilise.
Oui, je pense qu'il y a une époque à la RTBF, on utilisait aussi le bon vieux terme de crime passionnel pour expliquer ce qui était un féminicide, à savoir effectivement, comme l'a expliqué Camille, le meurtre ou l'assassinat d'une femme parce qu'elle est une femme. Et donc ici à la RTBF, maintenant de plus en plus, on essaye et on a notamment des formations et aussi une série d'outils qui sont qui sont là pour nous permettre de qualifier mieux les choses. Alors évidemment. Il faudrait aussi que les pouvoirs publics aussi avancent sur ces questions-là. Hein. Je veux dire, d'un point de vue pénal, il y a des textes qui sont en préparation, mais aujourd'hui, la catégorie pénale de féminicide n'est pas encore existante et c'est toujours l'homicide volontaire, le meurtre, l'assassinat, ces choses-là qui sont les catégories pénales qui sont utilisées. Et donc, on attend aussi des pouvoirs publics à un moment donné qu'on prenne conscience qu'effectivement, les violences faites contre les femmes est une problématique structurelle, récurrente et qu'elle a besoin sans doute d'une qualification pénale adéquate par rapport à la réalité des choses. Mais ici, on essaie d'être attentif. Alors après, voilà, hein, je veux dire, la culture
du
patriarcat.
Vous vous sentez vous-même que votre regard a changé dans la manière de traiter les choses? Vous avez eu comme ça des changements un peu de perspective ces dernières années?
Oui, on a eu des changements de perspective. Après, ça n'empêche pas, effectivement, je veux dire, la justice, c'est aussi raconter les éléments de contexte. Alors, qualifier, quand on a les éléments, un meurtre, un assassinat, de féminicide, parce que l'arsenal pénal et la manière dont va être définie la loi va permettre de le qualifier comme tel et on va le qualifier comme tel. Néanmoins, d'avoir oui, mais d'avoir aussi les éléments de contexte. Enfin, je veux dire, ce n'est pas l'un contre l'autre. Enfin, je veux dire, pouvoir expliquer que ces gens, les voisins, disent qu'ils se disputaient depuis des années, on a déjà entendu des cris à de multiples reprises et tout ça, ce sont des éléments de la procédure juridique et ce sont des éléments de contexte, des éléments de preuve, des éléments à charge, à décharge qu'on doit pouvoir rassembler dans le cadre d'une procédure judiciaire. Néanmoins, ça n'empêche pas d'avoir la nécessité aujourd'hui de qualifier ce type de crime comme étant un féminicide. Et je pense que même nous, effectivement, on avait des biais, des facilités. Enfin, je veux dire, voilà, qui est lié à l'histoire, qui est lié à une culture du patriarcat qui est quand même importante et qui se poursuit et qui fait qu'on doit se débarrasser en quelque sorte, petit à petit, de ce genre d'acception, de facilité aussi. Et alors, effectivement, le fait, par exemple, que, ben, évidemment, les victimes sont souvent plus là pour raconter les choses, c'est compliqué. Il y a le phénomène de... On héroïse aussi beaucoup. On essaie de donner du contexte, du coffre. On essaie d'expliquer...
De raconter une histoire.
De raconter une histoire.
Que ce soit narratif.
Et donc, parfois, c'est fortement au détriment de la victime. Et on se dit, tiens, mais la victime, est-ce qu'on lui donne? Elle n'a plus la parole aujourd'hui, mais est-ce qu'elle est encore là, quelque part, dans la procédure pénale et dans la manière dont on raconte les histoires journalistiques?
Camille Bernard, sur la qualification pénale du féminicide. On en est où aujourd'hui en Belgique?
Eh bien, a priori, le féminicide n'entrera pas dans le code pénal. Mais par contre, il y a une loi qui est en préparation via la secrétaire d'État à l'égalité de genre, Sarah Schlitz. Donc le parcours législatif est occupé à avoir lieu. Ce qui est intéressant, c'est que la loi définit le féminicide d'une manière large. Il y a quatre types de féminicides différents qui sont définis, en reprenant des définitions européennes, donc des institutions quand même internationales. Du coup, sur base de ces définitions, il va pouvoir avoir un recensement officiel, puisque pour l'instant, on n'a toujours pas de chiffres officiels chaque année.
Sur le phénomène.
Oui. On ne peut pas chiffrer. On a uniquement les chiffres des associations féministes qui se basent sur les articles de presse et sur les faits divers. Donc du coup, on met au moins 22 féminicides, parce que il y en a peut-être plus. Donc on aura enfin un recensement officiel. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que cette loi reconnaît les violences qui précèdent les féminicides. C'est même dans le titre de la loi. Donc ces violences-là aussi sont reconnues et sont définies dans le texte de loi. Donc c'est un texte de loi, à mon sens, qui est intéressant et sur lequel on pourra se baser aussi en tant que journaliste pour pouvoir dire, ben voilà, c'est dans les quatre définitions des féminicides, donc c'est un féminicide.
La première, l'histoire continue. Bertrand N. Hélène Maquet.
Alors, la manière dont on traite les faits divers, on l'a entendu, on en a parlé, a évolué à travers le temps. On a vu l'époque dans les années 60, on a accès facilement, en tout cas, aux sources, puis le développement de la presse faits divers, qui va trouver même une forme de modèle économique. Aujourd'hui, on voit une résurgence de ce qu'on appelle le true crime, hein, raconté de vrais crimes en long format, dans des magazines sérieux. On pense par exemple au numéro spécial de Society, hein, ce magazine sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qui était un carton, hein, il y a 2 ans à peu près, en podcast, en série Netflix, avec notamment Demeure, hein, qui cartonne aussi. Alors Fabrice Gérard, c'est un genre qui quand même explose, qui retrouve des lettres de noblesse, alors qu'avant c'était détective, ou c'était certains journaux feuilles de
un
chou,
peu caniveau.
Oui, ou qu'on qualifiait comme ça, même s'il y avait parfois des très bons papiers dedans. Mais voilà, c'était un peu cette vision qu'on avait, alors qu'aujourd'hui, raconter en long format des histoires de crimes, des histoires de meurtriers, souvent des hommes d'ailleurs, en détail, ça marche. Et c'est fait par des journaux qui sont plutôt considérés comme voilà, de qualité.
Oui, ça marche bien, hein, ça marche bien. Par exemple, moi, je peux parler de moi ?
Oui.
Moi, vraiment, il y a une affaire judiciaire qui m'intéresse très, très fort, qui va arriver à prescription maintenant, qui est vraisemblablement peut être qualifiée de féminicide, c'est le dépeceur de Mons.
Ah oui.
Donc, c'est une vague d'assassinats dans la région montoise, en Hainaut.
On est dans les années 90, hein ?
90, début 2000. Ouais. On a retrouvé des sacs plastiques. Il y a un juge d'instruction. Toutes les victimes sont des jeunes femmes de catégorie populaire et il y a un mystère. Souvent ça marche sur le mystère. Que s'est-il passé? Et donc c'est intéressant aussi parce que il n'y a pas de vérité judiciaire au bout jusqu'à présent. Là par exemple dans le dépeceur de Mons, il y a un juge d'instruction qui est en place depuis des années, qui arrive en fin de carrière là d'ici quelques mois. Il y a une cellule d'enquête où il reste 2-3 personnes, 2-3 policiers tout au plus. Et donc cette affaire va être classée sans suite. Il n'y aura jamais de débouché judiciaire. Et là aussi, voilà, pouvoir faire une série en plusieurs épisodes, pouvoir avoir les protagonistes du dossier qui sont là et avoir un mystère et peut-être faire avancer la vérité judiciaire.
Et aussi chercher de nouveaux éléments parce que c'est quelque chose qu'on trouve dans ces nouveaux formats.
C'est ça, c'est pas simplement raconter. C'est pas simplement raconter, c'est quelque part refaire un travail de juge d'instruction, c'est reprendre les éléments du dossier, reprendre les protagonistes, essayer d'aller déterrer la vérité. Et voilà, et ça marche formidablement bien. Voilà, l'affaire du petit Grégory aussi, je pense qu'elle a fait un carton sur Netflix avec plein d'images d'archives où on voit aussi toute la proximité qu'il y a entre les journalistes à l'époque et l'ensemble des protagonistes, que ce soit les parents, le village, le juge, à peu près tout le monde, les policiers. Et ça, ce sont des ressorts qui fonctionnent très très bien et voilà, le carton n'est pas démenti.
Avec le risque, Camille Wernars, et on en revient à l'affaire Champenois, peut-être de héroïser ces gens qui ont commis des meurtres, des assassinats.
Mais j'ai l'impression que c'est pire dans les séries de fiction.
Oui, on pense à Dahmer. Dahmer, c'est donc l'histoire de ce tueur en série qui tuait des personnes homosexuelles, noires, aux États-Unis.
La série a été fort critiquée pour ça, pour cette héroïsation. Par contre, il y a un documentaire aussi qui est sorti sur Netflix. Et là, c'est beaucoup plus confrontant parce qu'on est vraiment face au réel. C'est beaucoup moins héroïsé. Et dans pas mal de documentaires True Crimes, certaines réalisatrices aussi vont interroger les associations féministes. Et ça, je trouve intéressant parce qu'on a parlé de féminicide. C'est pas très loin du sujet qui nous occupe. Les tueurs en série, ils tuent massivement des femmes, sont massivement des hommes. Quand ils ne tuent pas des femmes, ils tuent des personnes de la communauté LGBTQIA+, des personnes homosexuelles. Il y a parfois aussi un fond de racisme. Donc en fait, c'est de la domination qu'ils exercent et ils jouissent de cette domination-là. Et ça aussi, on peut le raconter. Et donc les associations féministes, elles sont aussi des expertes pour nous raconter ça. Et donc c'est assez intéressant dans les documentaires, là, pour le coup, parce qu'il y a cette expertise qui vient aussi rajouter des couches d'analyse.
Ça vous parle, ça, Fabrice Gérard? Je vois que vous écoutiez Camille Werners dans la manière dont on va raconter dans les années qui viennent les faits divers, les grandes affaires judiciaires. Il va y avoir, vous pensez, de nouveaux réflexes?
Oui, en tout cas, moi, je rejoins le fait qu'il faut être attentif à ne pas trop héroïser des personnes qui sont susceptibles d'avoir commis des choses extrêmement graves. Et on le voit encore fort, fort régulièrement, ne fût-ce que maintenant. On est en train de voir au procès des attentats de Bruxelles qu'on a des difficultés sur les questions des transferts des détenus. Et donc, on a des présumés terroristes qui sont en train de dire qu'ils sont traités de manière inhumaine, qu'on atteint leur dignité. Alors, c'est une vraie question, on peut se la poser. Mais le problème, c'est qu'en regard des victimes qui ne sont plus là et qui ont vécu des choses absolument abominables, il y a une espèce de hiatus qui est assez malaisant. Et c'est la même chose, évidemment, quand on est dans des affaires, voilà, des affaires de meurtre, d'assassinat de femmes, où on fait de ces gens-là des gens qui ont une épaisseur, des mystères. Voilà, il y a le syndrome de Stockholm derrière ça.
C'est aussi partie de la réalité. Par exemple, Demeure, j'ai lu une incroyable BD qui a été écrite sur lui par un camarade de classe qui a fait toute sa vie avec lui de jeunesse. Et alors, il explique toute sa psychiatrie, comment petit à petit ses parents l'ont laissé tomber, il est tombé dans l'alcoolisme, il n'a pas trouvé d'aide. Mais ça fait aussi partie du récit. Mais en même temps, ça lui donne un côté presque de victime d'un système qu'il n'a pas pu trouver d'aide pour lui, etc. Hein, Camille Werners. Alors, quand on raconte ça, on ne dit pas quelque chose de faux, et en même temps, ça victimise alors celui qui est l'assassin.
Oui, c'est vraiment ça. Et du coup, avec prudence, je pense. Ouais. On peut le faire, mais avec prudence, voilà. Il faut...
Et en mettant les deux côtés, enfin, voilà. toutes les histoires de l'affaire.
En mettant tout.
Ouais.
Et c'est peut-être là qu'on va s'arrêter, hein, en mettant tout. Et on voit qu'au fil du temps, on se rend compte que mettre tout ne veut pas dire la même chose dans les années 60 ou aujourd'hui.
Et ce sera peut-être plus vrai dans 30 ans.
Et ce sera peut-être plus vrai dans 30 ans. Quand des gens reprendront des archives de l'histoire continue pour faire des émissions sur des émissions d'archives. Allez, merci d'avoir été avec nous. Merci Camille Werners, merci Fabrice Gérard. Merci.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue.
Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy.